plein de gens m'ont dit, bien là, c'est le temps de quitter, ça fait 15 ans, Parti québécois, c'est plus difficile. Bien, c'est justement, c'est quand c'est difficile qu'il faut être là. Alors, à la surprise générale d'à peu près tout le monde, parce que Véronique Yvon a quitté après 14 ans, Sylvain Godreau après 15 ans, j'ai décidé de faire un autre mandat. Donc, ce qui m'amènerait à l'âge de 51 ans à la fin de ce mandat-là, un sixième mandat, si ça fonctionne. J'ai envie de continuer. La passion est toujours là. Donc, c'est le choix le plus important que j'ai fait. C'est celui de continuer dans les circonstances. Alors,
bienvenue dans La Quarantaine, une série balado de 40 conversations avec des personnes de 40 à 49 ans qui se racontent. On prend le temps de se parler pour mieux se comprendre. Mon nom est Brigitte Gemme et j'adore faire parler les autres. Ce projet, c'est ma manière de donner du sens à ce milieu de vie où on continue de grandir et où on peut encore se redéfinir. Pour ce deuxième épisode, j'accueille Pascal Bérubé. Il a 47 ans et il représente Matane Matapédia à l'Assemblée nationale du Québec depuis 15 ans. Lui et moi, on se connaît depuis nos années dans le mouvement étudiant, on a été collègues et même colocataires. Aujourd'hui, il est tout dévoué à son rôle de député au service de ses concitoyennes et concitoyens, comparant son bureau à une clinique sans rendez-vous où les cas désespérés se suivent mais ne se ressemblent pas. Au fil de notre conversation, saupoudrée d'anecdotes souvent croustillantes, Pascal raconte les origines de sa famille dans l'Est du Québec, ses premières expériences à l'Assemblée nationale et les fois où il s'est fait dire que la politique, ce n'était pas pour lui. On parle de ses premières élections qu'il a perdues et de la grande joie d'être enfin élu député en 2007. On parle du mode de vie qui le consomme presque 24 heures sur 24 et des effets sur sa santé, et on se pose des questions sur l'avenir après la politique. C'est vrai qu'il parle bien, mon ami Pascal, alors vous m'excuserez d'être peut-être un peu mielleuse avec lui. Force est d'avouer pour moi que c'est toujours énergisant de parler à quelqu'un qui a le feu sacré pour sa vocation. Allons-y. Bonjour Pascal Bérubé, bienvenue à La Quarantaine. Quel plaisir de te voir aujourd'hui pour la première fois depuis peut-être 20 ans. Ça me fait très plaisir que tu sois là.
Bonjour Brigitte Gemme, ça me fait plaisir aussi. Ça fait longtemps qu'on se connaît, mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu non plus. Et est-ce qu'il faut raconter tout de suite qu'on a déjà été colocataires?
On peut.
À l'époque, sur la rue Visitation, coin Sainte-Catherine, dans le village, en 98.
Absolument. C'était la place où être. C'était les bonnes années. Et il faut d'ailleurs ajouter que dans les derniers jours de notre cohabitation, on a été cambriolés et quelqu'un t'a volé, entre autres choses, des cassettes montées avec les meilleures tunes que tu utilisais comme DJ.
Oui. CD, lecteur de CD. On n'a jamais retrouvé le matériel. J'ai fait le tour là, des prêteurs sur gage, des pawn shops. J'ai jamais rien retrouvé, mais j'avais une belle collection. Il a fallu repartir à zéro. Mais ça, c'est mon arrivée à Montréal. Alors, ça frappait l'imaginaire. J'arrive au printemps 98 et je viens ton colocataire tout près de Radio-Canada pour situer les gens à Montréal. Et j'en garde d'excellents souvenirs.
Ben oui, c'était des belles années. Et, mais j'espère que c'est pas parce que tu as eu une expérience traumatique que tu es retourné dans le bas du fleuve par la suite. Pascal, j'aimerais commencer l'entrevue en te demandant de me parler de ton quotidien, de quoi ça a l'air, la vie de tous les jours de Pascal Bérubé. On est présentement en juin 2022. Si je te suivais là, une journée typique, qu'est-ce que je verrais?
Je suis dur à suivre. D'abord, je ne dors pas beaucoup. 4 heures ou 5 heures depuis des années. Donc, je prends de l'avance sur les autres avec les nouvelles le matin. J'écoute beaucoup le 98.5 Montréal, Paul Arcand, la chronique politique, mais je fais le tour des médias locaux. Mais pour le reste de la journée, à moins qu'il y ait des activités à mon agenda, comme par exemple aujourd'hui, j'en ai 5 sur un immense territoire, ma vie s'apparente un peu à une clinique sans rendez-vous, où on ne sait pas de quoi sera fait la journée, qui va nous contacter ou passer au bureau, sachant que quand les gens viennent à nous, souvent je suis leur dernier recours. Ils ont besoin qu'on agisse rapidement. Puis évidemment, leur dossier, c'est le plus important au monde. Donc, il y a une partie de surprise. Il y a les choses qu'on peut planifier, par exemple, les dossiers qu'on veut défendre, les idées qu'on veut propager. Mais pour le reste, ça fait 15 ans en mars dernier que je suis député. Il n'y a pas une année qui se ressemble. Il n'y a pas une journée qui se ressemble non plus. Alors, je suis un peu mon propre patron d'une certaine façon. Je fais mon horaire, mais je suis constamment, les fins de semaine, le soir, mobilisé, parce que lorsque les gens ont besoin de moi, je réponds. Et c'est peut-être ça aussi qui fait en sorte que j'aime autant ça, parce que il y a vraiment, des fois le mot est galvaudé, mais une proximité avec les gens que je représente. 47 000 personnes sur des milliers de kilomètres dans 45 municipalités différentes. C'est un des comtés les plus durs à représenter au Québec, alors ça occupe son homme.
Mais t'es encore, à ma connaissance, un des députés les plus populaires, non?
Bien, comment dire, c'est mon cinquième mandat. J'envisage d'en avoir un sixième si on veut bien que je poursuive. La dernière élection, dans un contexte difficile pour le Parti québécois, on a fait 17 % des voix au plan national. J'ai fait 69 % dans mon comté. Le deuxième, la CAQ a eu 11. Les libéraux, 11, puis Québec solidaire, 5. Alors, quand on a fait 17 au national, puis 69,4 dans mon comté, bien, on peut s'imaginer qu'on est un peu un microclimat qui est dur à expliquer, sinon que je suis très présent avec les gens, je mène les batailles, j'ai une bonne équipe. Il y a un enracinement réel. Moi, je ne suis pas un de ces députés qui est parachuté dans une région qu'il ne connaît pas. Ma vie s'est beaucoup passée ici. J'ai quitté pour Montréal, mais je suis revenu depuis 15 ans maintenant. Et ma vie, c'est la politique essentiellement. Il n'y a pas beaucoup de place pour autre chose. Évidemment, il faut rapidement que je parle de ma conjointe, Annie Soleil, avec qui je suis depuis 10 ans, qui, elle, habite à Montréal. Alors, ça rend les choses plus compliquées.
N'est-ce pas? Je suis un peu épuisée juste à t'écouter. Puis effectivement, c'est pas surprenant que tu dormes si peu puisque tu en fais autant. J'aimerais qu'on s'embarque tout de suite pour débuter dans la question des racines. Tu me dis, effectivement, t'es pas un parachuté, t'es quelqu'un qui habite dans le bas du fleuve depuis toujours, presque. Raconte-moi un peu ton histoire, tes racines. D'où est-ce que tu viens?
Né à Matane d'une famille normale, pour reprendre les paroles de Michel Rivard, en 1975, à Matane, d'un père enseignant au secondaire avec une formation classique, qui a fait ses études en anglais à l'université à Charlottetown, à l'Île-du-Prince-Édouard, qui aurait pu devenir prêtre, c'était le vœu de ma grand-mère, mais ma présence témoigne qu'il n'est pas devenu prêtre. Ma mère, travailleuse sociale, gaspésienne, alors ils se sont rencontrés à cette île. Ils sont arrivés à Matane. Mon père est de Baie-des-Sables, tout près. Je suis né en 75. J'ai deux frères et une sœur qui sont plus âgés, donc je suis le cadet. Et j'ai fait mon primaire dans la plus grosse école primaire au Québec dans les années 80. L'école Zénon Soucy, il y a près de 1000 enfants dans une école primaire.
Wow.
Il y avait des reportages régulièrement qui disaient mais comment peuvent-ils être 1000 dans une école primaire? C'était le record. Je pense que ça n'a jamais été battu. École secondaire à Matane, où mon père m'a enseigné en géographie. Ça, c'était toute une expérience. C'était beaucoup plus sévère avec moi qu'avec les autres. Je me souviens, par exemple, que pour signer le bulletin, il n'y avait pas de passe-droit. Il fallait que j'aille dans son bureau à la maison. Là, c'est la relation père-fils. J'ai eu la chance d'avoir un cégep à Matane, alors en sciences humaines, pendant 2 ans. L'université à Rimouski, encore pas tellement loin, à 1 heure de route, en enseignement. Diplôme que j'ai, brevet que j'ai, mais que j'ai jamais vraiment utilisé. Alors ça, c'est particulier. Et ensuite, en 1998, je m'implique dans le mouvement étudiant. Je me fais élire à la Fédération étudiante universitaire du Québec. Je révèle un deuxième lien qui nous unit, comme le dit Christian Bégin, c'est-à-dire qu'on est dans la même organisation, la FEUC, au coin Hôtel de Ville et Sainte-Catherine.
Ah oui.
Où on gagne très peu, mais on est très motivé.
On travaille très fort.
Oui, je sais d'ailleurs que l'essentiel de mon alimentation, c'était à la pizzeria Sipan, pizzeria kurde, qui était juste en bas, où 2 points de pizza et un coke, c'était 3 $ tout inclus.
Avant l'inflation.
Voilà. Alors ça, c'est... On est jusqu'en 1998, je ne reste pas tellement longtemps, 1 année à la FEUC, et là, je reviens à Rimouski faire les cours que j'avais manqué parce que je m'impliquais beaucoup, la campagne référendaire, le mouvement étudiant. Et là, la politique, oui, c'est là. Je suis membre du Parti québécois depuis 1994, mais je suis beaucoup dans le mouvement étudiant. Et là, tranquillement, stage d'été au cabinet du ministre des Régions pour tout l'été, job idéal, faire de la politique puis être payé dans un cabinet, être le plus jeune, avec 2 amis. Alors, il y a Jean Hertel Lemieux. Il y a Marie-Élisabeth O'Neill, son père est un ministre du gouvernement Lévesque. Après ça, ben, je retourne encore à Rimouski faire des cours. Et, ah oui, et finir mon bac avec ce qu'on appelle le stage long en enseignement. Donc, le véritable moment où j'ai enseigné, c'est un stage de longue durée à l'école Georges Vanier à Villeray, au coin Christophe Colomb et Jarry. J'espère que ça se croise, ces deux rues-là. Alors, c'est dans ce coin-là.
Oui, oui, oui.
Et je me souviens très bien. Et arrive, et là, je ferai un stop après ça, une rencontre marquante en politique. Il y a un ministre du gouvernement de Lucien Bouchard qui me remarque faire des interventions au Parti québécois parce que là, j'étais entré dans l'aile jeunesse. Il dit « J'aimerais ça l'avoir comme stagiaire, peut-être le garder. » Et cet homme s'appelle François Legault. Et il est ministre de l'Éducation et de la jeunesse. Et il me recrute avec d'autres jeunes pour travailler avec lui. Alors, c'est mon premier contact avec lui en 2020, où je vais travailler tout l'été, tout l'automne, tout l'hiver et tout le printemps, jusqu'à temps qu'il y ait des coupes dans les cabinets et que les derniers arrivés sont les premiers à perdre leur travail.
Oui, je me souviens de cette époque-là. Vous étiez toute une équipe en plus.
Il y avait l'historien Éric Bédard, il y avait Jonathan Valois qui a fait de la politique, qui était député du Parti québécois, président du Parti québécois. Il y avait Jean Mathieu, je crois, qui écrivait, j'oublie son nom de famille, qui écrivait des discours. Il y avait vraiment Anne Marcotte, il y avait une fantastique équipe. Puis on a été projetés malgré nous avec le départ de Lucien Bouchard sur un premier choix qui nous entraînait. Est-ce que notre patron, François Legault, en 2001, veut devenir premier ministre du Québec? Et ça, je pense, je ne l'ai jamais raconté, Brigitte. On va sur la Grande Allée à Québec, et là, ils réservent un restaurant au complet, comme dans les films, où on a tout le restaurant, puis il y a un garde du corps à la porte. Et là, on se réunit avec d'autres personnes qui s'ajoutent à savoir si on va succéder à Lucien Bouchard. En fait, surtout François Legault et son équipe. Et là, il y a tout un chassé-croisé. Bernard Landry fait ce qu'on appelle la guerre de séjour, où il va mobiliser rapidement. Pauline Marois envisage, et finalement, Bernard Landry devient premier ministre. Et François Legault demeure ministre, maintenant à la Santé. Puis moi, ben, j'ai plus de travail. Alors, je vais travailler à l'UQAM, à l'École des sciences de la gestion, comme permanent de l'association étudiante. Ce qui me permet, à temps perdu, d'être aussi le président des jeunes du Parti québécois.
Quelle époque, Pascal, tu viens de m'envoyer dans un tour rapide d'une époque que j'avais presque oubliée, qui était enterrée pour moi. Je vais te poser une question, je ne sais pas si tu as la réponse à ça, mais si on pense à tes racines encore plus profondes, tu as mentionné un peu l'éducation de tes parents, mais est-ce que tu sais quelque chose de tes racines généalogiques?
Absolument, beaucoup de choses. Commençons par ma mère. Ma mère est une Saint-Laurent de Tourelle. Tourelle, c'est un village maintenant fusionné avec Sainte-Anne-des-Monts. Village assez mystérieux à bien des égards, où, dépendamment du secteur du village, ils ont tous des noms assez particuliers. Les chemins neufs, les touraqués, les tireux de roche. Alors ça, c'est très gaspésien. Et mon grand-père est ce qu'on appelle un jobber. Donc, il va de chantier en chantier pour couper du bois dans des chantiers. Puis il se ramasse sur la Côte-Nord avec ma mère et certaines de ses sœurs. Alors, ma mère va déménager constamment sur la Côte-Nord jusqu'à temps qu'elle arrive à Sept-Îles et où elle travaille. Et je l'ai su après sa mort. D'ailleurs, quand les gens décèdent, moi, dans ma famille, je dis aux gens, merci pour les sympathies, mais racontez-moi une histoire que je ne sais pas sur la personne, une anecdote ou une photo. Je fais toujours ça. Et là, j'apprends que ma mère travaille dans un salaire de misère comme femme de chambre à l'hôtel Sept-Îles. C'est une amie à elle qui me raconte ça puis qui me raconte toujours ces histoires-là. Et là, c'est sa vie. Puis elle rencontre sur la plage, comme dans un film, mon père, qui est très beau, qui arrive de l'université à l'Île-du-Prince-Édouard, qui travaille à Larenor, mais qui commence à enseigner à l'école Gamache. Donc, le coup de foudre a lieu là. Et mon grand-père, François, qu'on appelait François Procule, donc le fils de Procule Saint-Laurent, et c'est peut-être là que la fougue politique origine, est un maniaque de politique. Et il est admiratif de Pierre Bourgault, qui est candidat du Rassemblement pour l'indépendance nationale à Sept-Îles en 1966, au même moment où il est là. Il va aux assemblées et là, il dit à ma mère, cet homme est un orateur exceptionnel, il a la parole en bouche. Et ma mère m'a raconté ça pendant des décennies, admirative de Pierre Bourgault. Alors ça, c'est dans le subconscient de mon enfance. Ça, c'est du côté de ma mère. À peu près la seule qui ne s'est pas rendue à Montréal. Toutes les sœurs de ma mère et son frère ont tous travaillé à Montréal. Beaver Asphalt pour mon oncle, travaillé dans des shops pour dans des boutiques pour mes tantes. Donc, des Gaspésiennes, comme il y en avait beaucoup à l'époque, qui se rendaient à Montréal pour un avenir meilleur, mais qui travaillaient très fort à Saint-Henri, entre autres, à Saint-Léonard. Et ça, c'est du côté de ma mère. Et les gens qui ont connu mes deux parents savent que le côté leur oratoire, discuter, échanger avec les gens, c'est clairement ma mère qui était une femme haut en couleur, qui m'a beaucoup influencé et qui est la femme qui avait le réseau le plus extraordinaire à Matane. Donc, ma première organisatrice, c'est ma mère. Alors, qui faisait des cartes de membres puis qui m'encourageait, c'est fascinant. Côté de mon père, c'est autre chose. Baie-des-Sables, c'est un petit village qui est à l'est de Matane, qui est à côté de Métis-sur-Mer, qu'on appelait Métis Beach. Et là, il se passe quelque chose là. Évidemment, famille très catholique, il faut savoir que ma grand-mère, et là, vous le notez, là, pas mon arrière-grand-mère, ma grand-mère Joséphine, la mère de mon père, est née en 1898. Je répète, 1898.
Wow!
Comment est-ce possible? 14 enfants. Mon père est un des plus jeunes. Il est né en 1937 et aurait 85 ans depuis le 3 juin. Et en 1949, mon grand-père meurt noyé au large de Baie-des-Sables avec un de ses fils. Il était agriculteur, mais il faisait de la pêche en plus. On n'a jamais retrouvé les corps. Donc, jour au lendemain, ma grand-mère, 14 enfants, le lendemain, remet son tablier, va à la ferme, il fallait que ça continue. Un seul de ses enfants est désigné pour faire des études supérieures, c'est mon père. Il va au séminaire de Rimouski, le même où est passé Gilles Vigneault. Peut-être un prêtre. Ça serait toute une chance pour la famille. Non. Alors, mon père est un élève émérite. Il a raflé à peu près tous les prix, parce qu'on a accès aux archives maintenant qu'il y avait là-bas. Et il est le fils de son père, Georges, que évidemment, je n'ai jamais connu, qui, lui, écrit des pièces de théâtre, est un défenseur du français par la Ligue des jeunes catholiques français et qui va franciser le nom du village. Il s'appelait Sandy Bay, baie sablonneuse, sous contrôle des Anglais de Métis, la famille Mawson qui est là, puis les riches familles de Métis qui sont toujours là d'ailleurs, dans ma circonscription maintenant. Ils ont dit, ça nous prend notre village catholique et francophone. Là, on est dans les années 30. Et ils ont réussi, ça s'appelle Baie-des-Sables. Alors là, c'est la dualité anglaise et française sur deux villages voisins. Et ma grand-mère avertissait mon père, ne va pas voir les filles à Métis parce que ce sont des protestantes. Donc, on va être excommuniés. Ça, c'est une première des choses. Et elle était révoltée de savoir que les pasteurs anglicans pouvaient se marier, puis avoir des enfants. Puis bon, les Américains qui venaient l'été, des enfants puis des femmes. Ma grand-mère était désespérée de ça. Puis elle avait vu une série des années 80 qui s'appelle « Les oiseaux se cachent pour mourir ».
Oui, oui.
Et c'était, je pense, Richard Chamberlain qui était un prêtre, puis qui là est amoureux d'une femme. Et j'ai tellement entendu parler du sacrilège. Comment la télévision peut faire jouer une telle chose? Alors, c'est les deux environnements, du côté de ma mère, du côté de mon père. Je suis issu de ces deux milieux-là, mais ce qu'ils ont en commun, personne de connu en politique, personne d'engagé en politique, ni avocat, ni médecin, ni prof d'université. Quand j'ai voulu faire de la politique, je me suis dit, je viens pas d'un milieu qui est réseauté en politique. Je viens d'une famille où on lit les journaux, on regarde l'actualité, on lit beaucoup, mais je provenais d'un milieu un peu improbable et j'avais pas une profession qui, naturellement, me prédestiné à faire de la politique plus tard. Mais j'avais ça en tête.
Ton père est allé à l'université ou à l'école normale, là, en anglais, par contre?
Absolument, à Charlottetown. J'ai jamais vraiment su pourquoi. Il a fait sa formation en éducation là. Il a aussi habité à Québec parce qu'il allait à l'Université Laval. D'ailleurs, après sa mort, j'ai découvert qu'on a habité le même appartement.
Oh!
Un presbytère qui est presque en face du Concorde à Québec. Et là, je pense que c'est le 800 Grande Allée, quelque chose comme ça. Et j'habitais là, et en fouillant dans les papiers, je vois une correspondance. C'est exactement la même adresse. Alors, fin des années 50, début 60, alors c'est quoi les chances? J'aurais aimé pouvoir lui parler de ça, mais bon, finalement, c'était pas possible. Alors, il y a plein on a une famille assez particulière parce qu'il y a plein de clins d'œil de l'histoire comme ça. Des choses qui arrivent et qui se réalisent ou qui sont parfois un peu prophétiques. Là, je suis loin d'être mystique, mais il y a beaucoup de choses comme ça dans la famille.
Est-ce que tu as l'impression que... ou de quelle façon tu penses que ces racines historiques-là de ta famille se reflètent dans ta vie d'aujourd'hui?
D'abord, les racines géographiques. Moi, je n'aurais pas pu être député dans un autre lieu que le lieu où j'habite et où je suis originaire. Il faut que ça ait un sens. D'ailleurs, moi, je reproche qu'il y a des députés qui n'habitent pas leur circonscription. Il y en a beaucoup à l'Assemblée nationale qui n'habitent pas leur comté. Puis il n'y a rien de plus territorial que d'être député. Ça, c'est quelque chose que je ne m'explique pas. Alors, député, on dit souvent député de Matane, c'est un peu réducteur, parce que oui, il y a la ville de Matane où j'habite toujours, dans le quartier où je suis né, mais il y a aussi ce qu'on appelle la Matanie, donc de Léméchin jusqu'à Baie-des-Sœurs, mais aussi la Matapédia, d'où je parle aujourd'hui. Je suis à Sébec, en plein centre de mon comté. Et puis, il y a la Métis, ça, c'est Mont-Joli, Price, Sainte-Luce. Alors, c'est ce territoire-là que je représente, qui était différent en 2007, la première fois que j'ai été élu. Il y a une fusion de deux comtés. Et donc, oui, il y a un enjeu territorial pour moi. C'est-à-dire que je fais mon épicerie avec les gens que je représente. Je vais dans les mêmes lieux. D'ailleurs, j'étais chez Dollarama tout à l'heure. Les gens me disent, mais vous allez chez Dollarama? Oui, comme vous. On est avec vous. Rappelez-moi votre nom. Et là, je note ça. Puis là, je leur écris après de quoi on s'est parlé. Alors, je fais ça depuis 15 ans, mais c'est comme si je commençais à le faire. J'aime beaucoup ça, beaucoup par l'humour. Je suis chanceux, j'ai toujours des belles expériences. Les gens sont gentils avec moi. Puis en 15 ans, une seule fois, une personne a refusé de me serrer la main. Puis je pense qu'elle l'a refait un peu plus tard. Alors, je suis chanceux. Puis les réseaux sociaux sont plutôt bons avec moi.
Ça ne me surprend pas. Moi, je pense que c'est drôle parce que si on m'avait demandé il y a 20 ans qui est-ce qui est prédestiné à être un jour député de Matane, j'aurais certainement voté pour Pascal Bérubé. Mais j'ai découvert en me préparant pour notre entrevue que c'était pas, puis je ne veux pas m'étendre sur les questions politiques, mais c'était pas un château fort du Parti québécois précédemment. Tu l'as pas gagné du premier coup non plus, c'est vrai?
C'est vrai. Bien, d'abord, pour moi, c'était inaccessible de devenir député, pour les raisons que j'ai évoquées. J'étais pas engagé en politique, je venais pas d'une famille qui était réseautée, à l'époque, on disait une profession libérale, comme si c'était essentiel pour faire de la politique, ou j'étais pas une vedette des médias. L'histoire est relativement simple. J'habite à Montréal entre 1998 et 2003, puis... Décembre 2001, Mathias Rioux, qui est député de Matane, m'invite pour l'Assemblée générale annuelle comme orateur. Alors, on m'a vu un peu dans les médias comme président des jeunes, mais lui, il savait que c'était un test, il voulait m'entendre, voir si je pouvais lui succéder. Et là, après ça, des échanges, est-ce que tu aurais envie? Moi, je vais quitter après deux mandats, on a quand même une bonne différence d'âge. Et là, je commence à le considérer à partir de Montréal, et là, il doit prendre une décision de quitter... L'appartement sur le plateau Mont-Royal, les amis, la ville. J'adorais Montréal. J'aime toujours beaucoup Montréal. D'ailleurs, plus que Québec. J'aime beaucoup le Parlement, mais j'aime beaucoup mieux la ville de Montréal. C'est rien contre Québec, mais j'ai toujours une fascination pour Montréal. Et je prends la décision de revenir. Je me lance dans cette campagne-là. Trop sûr de moi. Mauvaise campagne. Les pires choses qui peuvent arriver arrivent. Et je perds par 33 voix. Sur 18 000 votes au total, 33 voix contre une candidate libérale. Alors ça, c'était un coup de massue. Ma vie est terminée. Je ne pourrais plus jamais faire de la politique. Qu'est-ce que je fais? Alors là, j'ai un brevet d'enseignement, mais je n'enseigne pas parce que j'avais trouvé du travail avant l'élection au Carrefour Jeunesse Emploi, puis je faisais plein de choses. Il faut que je travaille à partir d'après l'élection. Puis j'habite dans la ville où j'ai perdu, puis il faut que je travaille. Alors ça, c'était dur, mais j'ai décidé de continuer de m'impliquer, d'être le président du Parti québécois du comté, de vendre des cartes de membres. Mais j'ai une crainte de revenir. J'ai peur de perdre une deuxième fois parce que la députée est très populaire. Et deuxième clin d'œil de l'histoire, j'essaie de ne pas y aller. Puis il y a un congrès à Laval, Conseil national du Parti québécois à Laval. Il y a quelqu'un qui est désigné pour me convaincre de me représenter une deuxième fois. Bien, c'est le député de Rousseau, qui s'appelle François Legault. Deuxième fois! Première embauche, il me convainc. Je ne sais pas s'il regrette de m'avoir convaincu de revenir en politique, mais je décide d'y aller en me disant, j'ai rien à perdre, et si je perds, c'est sûr que je quitte Matane et je ne reviens plus. Ça, c'était clair dans ma tête, je m'étais préparé à ça. Mais finalement, c'est totalement le contraire de la campagne précédente. Tout va bien. C'est fantastique, les gens sont de bonne humeur, puis on se dit, bien, on pourrait peut-être gagner. Et là, ben, je suis dans une chambre d'hôtel avec quelques amis, dont Claude Villeneuve, qui est maintenant le chef de l'opposition de la Ville de Québec. Si on m'avait dit de parier là-dessus, j'aurais pas pu deviner. Et là, je reçois des téléphones à peu près à toutes les 15 minutes d'un organisateur qui s'appelle Romain Gagné, qui me dit 125 voix de majorité, 50 boîtes. Il reste 50 boîtes à calculer.
Ouh.
140, 75 boîtes. 250, 20 boîtes. Et là, ça descend. Puis à un moment donné, c'est 213 voix. Mais combien de boîtes? Il n'y a plus de boîtes, monsieur le député.
Vous avez gagné.
Et j'ai le vidéo de ça que je ne retrouve plus, mais je saute comme un kangourou. Je pleure. Et là, j'ai dit quelque chose comme, je cogne pour la deuxième fois à la porte de l'Assemblée nationale et cette fois, la porte s'ouvre. Le moment d'émotion de vivre ça et de voir mes parents vivre ça, parce qu'ils ont été très affectés pour moi la première fois. Et là, ma mère était tellement nerveuse. Quand mon frère a dit, on peut y aller au rassemblement, il a vraiment gagné. Oui, il a gagné. Et c'était un moment d'exaltation fantastique. Le Parti québécois a fini troisième, la DQ était deuxième, les libéraux étaient premiers, gouvernement minoritaire de M. Charest. Mais moi, j'avais le siège. J'étais content, j'ai dit, je vais bien faire ça. Et c'est un rêve qui se réalise quand je pensais que c'était plus possible. Alors, heureusement que j'ai persévéré. C'est les Y dans la vie. Si j'étais décidé de ne pas y aller, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui? Je ne sais pas. Peut-être que je conseillerais quelqu'un en politique. Mais il y a une force, il y a des gens qui s'affairaient à me dire « il faut se réessayer ». Et c'était une excellente décision que j'ai prise.
Pascal, ça me rappelle une anecdote. Une autre chose qu'on a faite ensemble, c'est participer au Parlement étudiant du Québec.
Ah oui.
Qui est, pour ceux qui ne savent pas, une simulation parlementaire qui regroupe des jeunes de 18 à 25 ans qui prennent la tâche extrêmement au sérieux, je dois dire. On était évidemment dans le caucus des Bleus, il y a un caucus des Rouges. Puis c'est 4 jours sans dormir à défendre des projets de loi et tout. Et je me souviens, je ne peux pas dire l'année, mais je me souviens de la dernière fois où on y était les deux ensemble. Puis je me souviens de te voir quitter ton bureau. Je ne sais pas si on était du côté du gouvernement ou du côté de l'opposition, mais je me souviens de te voir quitter la salle de l'Assemblée nationale avec une certaine émotion. Puis je pense que tu fais partie certainement peut-être la personne que je connais qui a le plus de respect peut-être même d'un amour réel pour cette institution démocratique-là. Puis je suis tellement contente que tu y sois retournée parce que il y a tellement de situations, je dirais, puis je blâme pas les députés qui sont dans une situation différente de la tienne, mais je pense qu'il y a des gens qui font le métier avec moins d'amour.
C'est un privilège, d'abord. Mais c'est intéressant, les simulations parlementaires. D'abord, sur cette anecdote-là, elle est encore plus grande que ça parce que je suis le dernier à sortir de la salle. Puis j'ai de la misère à sortir. Et là, un des deux responsables du programme, il y avait Robert et il y avait Rémi.
Oui,
et je crois,
le page.
Je crois que c'est Rémi. Oui, un responsable des pages, puis l'autre qui est directeur, je pense, des activités pédagogiques de l'Assemblée nationale.
Ah oui, c'est
je,
vrai.
Je suis le dernier à sortir. Ils me disent, Monsieur Bérubé, allez-vous revenir l'année prochaine? Et ma réponse est la suivante, quand je reviendrai, ce ne sera pas une simulation. Et ça a sorti tout seul. Et là, ils sont reculés. Ils disent, oh, qu'est-ce que ça veut dire? Et je les ai revus quand j'ai été élu en 2007. Ils se souvenaient de cette phrase-là. Donc, ça ne sera pas une simulation, ça sera pour vrai. Mais avant le Parlement étudiant, il y a eu le Parlement jeunesse. Et là, les gens qu'on rencontre sur notre route, parfois on les rencontre plus tard. Ça, c'est fascinant. En 1995, après la campagne référendaire, je suis vidé psychologiquement et physiquement. Je m'inscris là, je ne connais personne. J'arrive en autobus entre Noël et le jour de l'an. Il faut réaliser qu'on est jeune, on arrive là avec nos vêtements, on emprunte une cravate à notre père, un veston, et puis là, on trouve de l'argent pour faire quelques jours, 5 ou 6 jours à l'hôtel puis au Parlement. Alors, je fais une première année, je trouve ça intéressant. Il y a plein de gens que je ne connaissais pas, mais qui vont devenir très connus. Je pense à Dominique Anglade, qui est là, chef du Parti libéral du Québec. Je pense à Marie-Soleil Michon, qui a une carrière dans les communications exceptionnelles, notamment à la télévision. Martin Koskinen, directeur de cabinet du premier ministre du Québec actuel. Alors, je fais la première année, je fais la deuxième année. Et là, j'ai un style qui détonne un peu des autres jeunes qui sont là. Et là, je vois une activité l'été à Jonquière, je pense que c'est le Rassemblement Jeunes Francophonie, puis ils sont là, puis je leur dis, écoutez, j'ai appliqué pour la troisième année, j'ai pas eu de réponse. Ouais, ben, c'est qu'il y a beaucoup de demandes, puis il a fallu faire des choix, puis tu n'avais pas vraiment le profil. Je pense que tu n'as pas le profil pour faire de la politique. Alors, on dit ça. Alors là, je suis triste. Je dis, ben, je ne suis pas à la hauteur, puis ils ne veulent pas me prendre. Alors, j'apprends l'existence du Parlement étudiant qui est beaucoup plus près de la réalité. Et là, je retrouve des gens que je connais, du mouvement étudiant, des ailes jeunesse de partis politiques. Mais là, j'ai beaucoup de plaisir. Avec toi, Brigitte, avec Charles-Hubert Derry. Je ne sais pas si tu te souviens de Charles-Hubert Derry. Qui sûr. Allait devenir mon coloc en 1999 à Notre-Dame-de-Grâce. Et Charles-Hubert, à un moment donné, est malade. Puis il dit, faut que tu me remplaces sur un dossier. Je pense que c'était la sécurité publique. Et là, j'y vois de formule choc. Read my lips, no RCMP, et des formules choc comme ça. Puis là, les gens aiment ça. Puis j'en viens élu premier ministre du Parlement étudiant, pas ce que j'ai abandonné des mois avant la simulation parce que c'était très compliqué, mais j'ai beaucoup aimé ça. J'ai encore des vidéos de ça. Et je retrouve des gens un peu partout, là, au Québec et ailleurs dans le monde qui ont fait la simulation, qui ont aimé ça. Donc, ça m'a donné une idée à quoi ça ressemblait, mais bien avant ça, quand j'allais à Québec avec mes parents, je voulais passer devant le 1080 des Braves, qui est la résidence du premier ministre Parizeau, et j'ai une photo de moi au cégep, où je photographie, puis je pointe la maison. Je dis, réalisez que le premier ministre habite là, lui. C'est pas rien, c'est le premier ministre du Québec. Puis maintenant, mais les premiers ministres, je les ai tous côtoyés depuis 25 ans. Alors, quand je dis que c'était inaccessible pour moi, le plus loin que je pouvais aller, c'était une simulation parlementaire. Le reste, c'est soit une bonne étoile, soit beaucoup de travail, mais je suis toujours tellement reconnaissant de siéger là. J'ai encore envie d'y aller en plus.
Je trouve cette énergie-là absolument magnifique. J'en ai des frissons, Pascal. Ça me fait tellement plaisir qu'on ait cette conversation-là aujourd'hui. Et puisqu'on parle des premiers ministres et on va parler des choix, j'aime parler des choix qu'on fait qui nous amènent à l'endroit où on est dans la quarantaine. Et il faut qu'on se débarrasse de la question. Tu as été chef intérimaire du Parti québécois il y a quelques années. C'est vrai, je ne savais pas.
C'est le record de tous les temps pour un intérim.
Et tu as décidé de ne pas chercher de ne pas être candidat pour la chefferie du Parti québécois. Peux-tu me parler un peu de cette décision-là? Et là, on est dans une conversation peut-être plus personnelle que politique, mais je t'écoute.
Non, mais j'ai la même réponse en privé qu'en public. D'abord, je n'ai jamais rêvé d'être premier ministre du Québec, parce que si on veut être chef, c'est qu'on aspire à être premier ministre du Québec. Je n'ai jamais rêvé à ça, je n'ai jamais souhaité ça, je n'ai jamais sollicité ça. Et j'ai toujours dit que je peux être utile sans être en avant. Donc, je n'ai pas cette ambition-là. Je ne l'ai jamais eue. Puis même si elle était évidente, même si c'était facile pour moi d'avoir accès à un poste puis de le devenir, ça ne m'intéresserait pas plus. J'ai beaucoup aimé être ministre. Ça, c'est vrai. Je l'ai été pas assez longtemps. Je l'ai été à peu près 18 mois dans le gouvernement de Mme Marois. Mais ça ne m'intéresse pas parce que, d'abord, il faut avoir une très grande estime de soi pour être chef de parti. C'est qu'on est aspirant premier ministre. On oublie de le dire, là. Les cinq principaux chefs qui vont s'affronter dans cette élection qu'on vit au moment où on se parle, parce que je sais qu'on est un peu dans la campagne électorale quand ça va jouer, ils veulent tous être premier ministre. Ils veulent que leurs idées triomphent avec leur formation politique. Donc, je n'ai jamais voulu ça. Et il était très clair pour moi, après la dernière campagne, quand Jean-François Lisée a quitté, je peux rendre service en étant le chef parlementaire, en étant le porte-parole, le chef d'une certaine façon, mais pour un maximum de temps. Ça devait être quelques mois, c'est devenu un an et demi, deux ans. Pandémie oblige, je repars de la course. Et j'ai même rajouté un autre six mois pour aider le nouveau chef. Mais je les avertis souvent, si le 30 juin 2021, vous n'avez pas trouvé quelqu'un, j'annonce moi-même par communiqué que je quitte. Il y a de l'argent qui est lié à ça. Je refuse 34 000 $ annuellement en surplus. Je ne le veux pas, je le mets là. J'ai un garde du corps et chauffeur qui vient avec. Je ne le veux pas non plus. Donnez tout ça au nouveau chef. Donc, j'aurais tout pu garder ça. Mais ça ne m'intéresse pas. Député, c'est vraiment, mais là, vraiment, là, le seul titre qui m'intéresse. Parce qu'on est tous d'abord députés de. François Gendron, qui a fait 42 ans à l'Assemblée nationale, me raconte tout le temps ça. Député de, puis le reste, tant mieux si on peut servir. Mais c'est noble d'être député pour moi. C'est le combat que je mène. Valoriser le travail de député. Qu'on soit au gouvernement, qu'on soit dans l'opposition. Moi, je ne suis pas dans l'opposition dans mon comté, je suis premier. Hein? C'est ça que je raconte. Alors, c'est une question d'attitude. Alors, non, je ne veux pas être chef du Parti québécois. Et oui, il arrive très souvent qu'on me dit, mais pourquoi vous n'êtes pas là? Peut-être que ça serait mieux. Je ne le crois pas. Même avant la pandémie, on a monté à 19 % dans les sondages quand j'étais chef parlementaire. Mais tout le monde était plombé par la pandémie. Alors, ça ne veut pas dire que ça serait mieux. Et je connais Paul Saint-Pierre Plamondon depuis quelques années et j'ai un peu appris que vous êtes côtoyé aussi dans le mouvement étudiant. J'ai confiance en lui, dans l'adversité. Ça ne sera pas facile, cette campagne-là, mais je vais aider du mieux que je peux. Mais non, je n'ai jamais rêvé d'être chef de parti et je pense que je serais malheureux faire ça parce que c'est énormément de pression. C'est le débat des chefs. Moi, je suis capable physiquement d'imaginer la pression sur les chefs. En direct, quand toute une équipe dépend de toi, quand chaque phrase est analysée, chaque échange, je ne suis pas sûr que j'aurais les nerfs pour ça. J'aimerais mieux être un conseiller. D'ailleurs, je le serai pour Paul Saint-Pierre Plamondon, pour son débat. Mais ça me suffit, député, c'est déjà beaucoup.
J'aime cette idée-là. Et il y a sûrement beaucoup d'autres choix que tu as fait, Pascal, dans les 20-30 dernières années, qui ont été marquants, ou peut-être aussi des choix que tu n'as pas fait, soit que tu n'as pas fait un choix, puis finalement l'opportunité est passée, ou bien des choix qui ont été faits pour toi. Je serais curieuse de connaître les choix qui ont déterminé qui tu es et ta vie aujourd'hui.
Un exemple, évidemment, de se représenter une deuxième fois, ça, c'est un choix important parce que si je ne vais pas, je ne gagne pas et je fais d'autres choses. Et peut-être qu'on ne se parle pas, on se parle sur d'autres sujets, mais pas sur la politique. Un moment marquant, j'espère que l'ex-première ministre Pauline Marois m'en voudra pas, mais quand le gouvernement est formé, évidemment, on a tous un peu des attentes. Que le téléphone sonne à partir du matin, c'est comme ça que ça fonctionne, on se fait appeler, puis on se fait proposer, puis... Si le téléphone ne sonne pas après l'avant-midi, tu commences à t'inquiéter. S'il ne sonne pas l'après-midi, tu commences à maudire tout le monde. Il y a un appel qui est arrivé très tard le soir. Et ce qu'on m'a proposé, ce n'était pas un poste de ministre. C'était un poste d'officier à l'Assemblée nationale. Et là, je suis confronté à accepter ce qu'on me propose ou le refuser poliment. Alors, j'ai deux conseillers qui sont avec moi, très connus au Québec, très expérimentés. Le premier me dit, il faut accepter. La première ministre l'a proposé. Puis bon, ça, c'est un départ, puis ça. Moi, je calcule en ma tête que c'est un gouvernement minoritaire. Il n'y aura pas tant de changements que ça. L'autre conseillère me dit, non, concentre-toi pour être député. Alors, j'ai dit à Mme Marois, respectueusement, Mme la première ministre, je n'ai mieux rien à voir. Mais vraiment, là, ça me va. Là. Député, ça me va. Je ne veux pas de poste, je ne veux pas de rémunération supplémentaire. C'est votre choix, je le respecte, mais je ne veux pas aucune autre responsabilité que d'être député, puis je veux faire ça correctement. Et là, un peu surprise, elle me dit, mais voyons, c'est une grosse majorité, tu as été actif depuis des années, il faut te donner quelque... Ça va. Et je suis beaucoup comme ça. C'est pas que je me punis moi-même, mais je ne m'astine pas. Alors, ça reste comme ça, et je reçois un appel un peu plus tard qui dit quelque chose comme « OK, ministre du tourisme. » Et moi, je pousse l'insolence. Est-ce que je suis ministre responsable du Bas-Saint-Laurent aussi? Parce que je connais l'importance d'être le ministre responsable de sa région. Oui, oui. Mais ça va être ça, OK? Autrement dit, pousse pas ta loque. Je sais que beaucoup de tendresse, parce que Mme Marois sait que je le raconte à l'occasion. C'est pas un secret du Conseil des ministres, donc je ne suis pas à vie, parce que les gens doivent savoir ça, à vie, je n'ai pas le droit de raconter ce qui s'est passé au Conseil des ministres. C'est un serment là, très, très sérieux, avec des conséquences. Mais ça, je peux le raconter. Alors, si j'avais dit non, en fait, si j'avais accepté l'offre initiale, je ne serais jamais devenu ministre. J'ai bien fait de le faire. Et je pense que j'étais un bon ministre et c'était bien parce que j'adorais le ministère du tourisme parce que c'est à la fois économique et identitaire. C'est un ministère de bonnes nouvelles, de choses fascinantes, de festivals, de nourriture du terroir, de plein de choses d'expérience. C'est fascinant, j'adorais ça, trop peu. Alors ça, c'est un choix important que j'ai fait. Évidemment, il y a eu des courses à la chefferie. Qui on appuie? Dépendamment de qui on appuie, ça peut changer notre destin. Mme Marois quitte la vie politique après sa défaite de 2014, s'ouvre une course, Pierre-Carl Péladeau, Bernard Drinville, Alexandre Cloutier, je crois que Martine Ouellette à ce moment-là, Pierre Serré. Alors, je suis le premier à aller cogner à la porte de Pierre-Carl Péladeau à Outremont, un samedi après-midi sans avertir, en lui disant « Notre relation est un peu improbable. » Milliardaire, fils de Pierre Péladeau, père, mais c'est un profil qui s'ajoute au Parti québécois et je pense que ça vaut la peine d'aller de l'avant. Alors, je suis le premier à lui dire, ben, on commence une organisation cet après-midi. Je suis tout seul, là. Et il me regarde en me disant, mais il ne manque pas d'aplomb, le jeune. Sa garde s'est approchée et il a remporté la campagne de façon éclatante. Puis après, plein de gens se sont joints à la campagne, il est monté dans les sondages. Et cette amitié-là est demeurée. L'amitié est demeurée avec, avec Pierre-Carl. Même chaque fois qu'on est dans un événement mondain, c'est lui qui exige qu'on soit sur la même photo. Alors, ça donne lieu à toutes sortes de spéculations sur, sur nos liens. C'est des liens d'amitié réels. Je l'aime beaucoup, je connais sa famille, il me fait beaucoup rire. Et ce qui est le fun, c'est que je n'ai jamais rien demandé, ni pour moi, ni pour personne d'autre. Alors, c'est pour ça qu'il y a une relation, quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir. Ça, c'est un choix. Choix d'après, autre campagne, parce que Pierre-Carl Péladeau quitte. J'ai un collègue, Alexandre Cloutier, qui est à peu près du même âge, qui est arrivé en même temps que moi. Mais là, au lieu d'être le premier qui fait un choix, je suis le dernier. Jean-François Lisée, je trouvais que Jean-François arrivait avec des idées qui ressemblaient aux miennes. Je vois sa campagne monter, mais... quand j'annonce que je me rallie à lui, il n'est pas premier, loin de là. Alors, je l'appuie aussi. Après ça, les choix ben, politiques, c'est les choix de continuer à chaque mandat. On pourrait s'arrêter, dire « bon, j'arrête là, je fais un autre mandat ». Et là, le choix que j'ai fait pour 2022, plein de gens m'ont dit « ben là, c'est le temps de quitter, ça fait 15 ans, Parti québécois, c'est plus difficile ». Ben c'est justement, c'est quand c'est difficile qu'il faut être là. Alors, à la surprise générale d'à peu près tout le monde, parce que Véronique Yvon a quitté après 14 ans, Sylvain Godreau après 15 ans, j'ai décidé de faire un autre mandat. Donc, ce qui m'amènerait à l'âge de 51 ans à la fin de ce mandat-là, un sixième mandat, si ça fonctionne. J'ai envie de continuer. La passion est toujours là. Donc, c'est le choix le plus important que j'ai fait. C'est celui de continuer dans les circonstances. Alors, j'aime à dire que c'est un choix tout sauf opportuniste, parce que c'est pas comme si ça allait si bien que ça, mais on a commandé un appui, ben en fait un sondage à la firme Léger après mes 15 ans pour valider si les gens avaient envie que je reste. Et le taux d'approbation est le plus élevé mesuré par Léger en 35 ans pour un député local. 92 % de bonne ou très bonne opinion.
Wow!
C'est les mots de Jean-Marc Léger. En 35 ans dans la business, j'ai jamais vu ça pour un député local. Alors j'ai dit, bon, les gens ont envie que je continue, je continue. Alors, j'avais l'assurance que je n'y allais pas pour moi de dire « Hey, je vais faire 4 ans de député. » Ils veulent aussi que je sois là. Donc, ça m'a rassuré. Puis, j'ai donné ma réponse que oui, je serais candidat. Dans un contexte difficile aussi, parce que le choix aurait pu aussi d'aller dans le privé, parce que j'ai eu beaucoup d'offres dans le dernier mandat, très importantes, très intéressantes dans l'entreprise privée, dans les communications, dans le secteur institutionnel, que j'ai toutes écoutées et toutes refusées. Et cela m'aurait permis d'habiter avec ma conjointe à Montréal. C'est la question que peut-être tu n'oses pas poser. Pourquoi vous n'habitez pas ensemble? Pourquoi tu ne lâches pas ça pour aller la retrouver? Bien, c'est un choix à assumer. Elle sait que c'est ma passion. Comme je ne lui demande pas de quitter la télévision, elle ne me demande pas de quitter la politique. Puis on réussit à se retrouver à Québec. J'ai un condo, elle a un chalet à Yamachiche. On n'est pas toujours ensemble, mais on se voit très souvent.
On y reviendra, je te le promets, mais j'aimerais te poser une autre question sur le choix d'être député. Et on spécule, on jase, là. À quoi ressembleraient les circonstances qui feraient en sorte que dans un avenir improbable, tu dirais « OK, je vais faire autre chose, je vais accepter une autre offre, je ne me représente pas comme député ».
C'est vraiment que la passion ne soit plus là, le sentiment que je ne suis pas utile à ma communauté ou que ça nuit, ça me toucherait beaucoup, ou que la santé ne soit plus là. Ou que l'offre, parce que c'est n'importe quelle personnalité qui a fait un peu de politique, qui quitte, va raconter que c'est un vertige après. On ne sait pas ce qu'on va faire, on ne sait pas la valeur qu'on a dans le marché du travail aussi. Est-ce qu'on va avoir un appel? Est-ce qu'on va être oublié? Est-ce que, bon... Il y a beaucoup de gens qui ont regretté leur départ en politique parce qu'ils ne retrouvaient pas la stimulation qu'ils avaient. C'est quoi notre valeur après la politique, au plan professionnel? Puis au plan humain, on appartient à un groupe, c'est intéressant. Alors, il faudrait vraiment que ce soit quelque chose qui me passionne. Évidemment, bien, il y a des gens qui m'ont entendu me dire « ben on te verrait dans les communications ». Alors oui, j'ai approché ça d'une certaine façon en acceptant d'écouter ce qu'on avait à me dire, mais très rapidement, je voyais bien que ce n'est pas fait pour moi. Je ne peux pas commenter quelque chose que j'ai fait. Il me semble que, d'ailleurs, je le reproche que souvent, c'est des anciens collègues qui commentent l'actualité Et s'ils commentent l'actualité, c'est parce qu'ils ont perdu. Alors, pourquoi j'écouterais, les conseils de gens qui sont disponibles parce qu'ils n'ont pas réussi? Je ne le dis pas méchamment, mais le commentariat politique fait par des anciens collègues, je ne l'écoute pas tant que ça. Je l'écoute parce qu'il est à la télévision ou il est à la radio, mais je voudrais pas m'ajouter à ce groupe-là de commentateurs politiques. C'est pas fait pour moi. Tout comme c'est pas fait pour moi d'être chef aussi. Alors, la meilleure position, député, où je suis mon propre patron, mais avec, au quotidien, mais avec énormément de patrons qui me surveillent, qui sont les citoyens de la circonscription.
Parlons des autres décisions. Puis il y a beaucoup de gens qui voient la vie professionnelle d'un côté, la vie personnelle de l'autre. Puis avec mon expérience très limitée dans le monde politique, je ne vois pas ces choses-là de façon complètement séparée. Puis j'ai l'impression que peut-être toi non plus. Mais si on essaie de séparer les choses, est-ce qu'il y a des choix plus personnels que tu as faits au cours de ta vie adulte qui déterminent où est-ce que tu en es maintenant?
Ma vie n'est presque que politique, mais je dirais que la principale décision ou non-décision, c'est celle de ne pas avoir d'enfant. Alors, je vois bien que la majorité de mes collègues ont des enfants, mais sachant de quoi est faite la vie politique, ça ne serait pas de rendre service à une vie de famille d'avoir des enfants. Je sais de quoi c'est les absences, la charge mentale, les conditions, exposer des enfants à la critique de leur père ou de leur mère. Et je n'ai pas cet appel naturel-là de dire que ma vie ne sera pas complète si je ne suis pas père. Je n'ai jamais eu ça. Alors, j'ai 47 ans. Je n'ai pas cet appel-là. J'ai des amis qui ont eu cet appel-là plus tard avec des conjointes plus jeunes. Ça, c'est nouveau. Ma conjointe est beaucoup plus jeune que moi. Je dis beaucoup là, pour lui parce que je sais qu'elle va écouter. mais c'est même jamais une discussion qu'on a vraiment eu besoin d'avoir. C'était comme assumé. Elle aussi, dans un métier qui l'amène à voyager beaucoup, à faire de la radio, de la télévision, ce qu'elle fait bien depuis des années. Donc, deux personnalités publiques qui ont des horaires atypiques et qui n'habitent même pas sous le même toit de façon régulière. Donc, cet enjeu-là est réglé, puis il ne s'est pas présenté davantage avec des conjoints précédents. Donc, moi, je vis bien avec ça, j'aime beaucoup les enfants, mais moi, je ne souffre pas de dire « à 47 ans, je n'ai pas eu d'enfant ». Non, c'est comme ça.
Est-ce qu'il y a des... Bon, on disait, tu as 47 000 patrons, d'une certaine manière, des concitoyens qui font partie de ta circonscription. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des aspects de ta vie où tu as des libertés que tu n'as pas? Est-ce qu'il y a des manières dont être député, ça, tu t'as mentionné, tu es une personnalité publique, est-ce que ça contraint ta liberté d'une façon ou d'une autre?
Oui. Bien, il y a des renoncements de tout genre. Par exemple, qui sont liés parfois à la sécurité. Je veux dire, j'ai été ministre, j'étais chef parlementaire, j'étais accompagné d'un garde du corps armé en permanence. Donc, j'avais plus le droit de conduire. Ça, c'est de 2012 à 2014, puis de 2018 à 2020. Donc, ça, c'était assez particulier dans un véhicule de la sécurité publique. On va au centre commercial, il y a quelqu'un qui nous suit, qui se place comme ça avec son arme. Et bon. On ne nous voit pas, mais je le mime. Ça, c'est particulier, mais ça avait quelques avantages aussi. Par exemple, les bars, je ne vais plus là depuis de nombreuses années. Parce que alcool, pas nécessairement pour moi, plus politique, mauvais mix. Alors, ça fait une décennie, je pense, que je peux aller dans un bar. Peut-être l'après-midi, des fois, quand il y a une activité politique. Je ne vais pas là. Évidemment, il y a des choses qu'on se retient parfois d'écrire sur les réseaux sociaux, mais qui nous...
Sur Lupine.
Oui, ça arrive à l'occasion. Évidemment, on sait qu'on est surveillé maintenant. Les gens aiment rapporter, j'ai vu un tel à tel endroit, il s'est comporté de telle façon. Ce qui me réconforte, par contre, c'est que pas plus tard qu'hier, il y a un chroniqueur politique à la radio qui dit qu'il s'est rendu à l'Assemblée nationale, puis là, il questionnait le personnel en privé, qui sont les plus gentils, comment ils sont les politiciens, parce qu'on avait terminé. Et là, bien évidemment, il dit, bien là, il y a François Legault, le premier ministre, il est gentil, puis tout ça. Puis bon, là, il note tout ça. Et là, les, c'est des femmes qui sont employées de l'Assemblée nationale. Mais vous n'avez pas parlé de Pascal Bérubé? Ah, lui, là, bon. Ça m'a fait plaisir parce que le, la première journée que je suis arrivé à l'Assemblée nationale, de la première personne qui m'accueille en passant par les gens qui sont à l'entretien jusqu'au secrétaire général, je traite tout le monde également, j'arrête de parler avec tout le monde, je connais leur nom, je connais un peu leur vie. J'ai toujours fait ça. Pourquoi je le raconte? Parce que j'ai des collègues qui ont fait exactement le contraire et ça se parle encore à l'Assemblée nationale. Ça témoigne un peu, parfois, du genre de personnes qu'ils sont. Alors, c'est important. Je ne sais pas où je vais m'en aller avec ça, mais je voulais donner un exemple de comment je me comporte.
Je pense que, tu dis, on est toujours surveillé. Je pense que j'ai pensé à la question des paparazzi, tu sais, qui... dans les années 90, c'était devenu un peu hors de contrôle, là, jusqu'à la mort de Lady Di. Et même maintenant, j'ai l'impression qu'on est comme entouré constamment de paparazzi. Et si on est un temps soit peu une personnalité...
Son iPhone. J'ai été chanceux là-dessus, sauf une fois. Une fois, à Matane, c'est un endroit qui s'appelle le Riotel, puis il y a une terrasse à l'arrière. Et là, bon, les gens de Matane sont au courant que je suis un fumeur. Il n'y a pas de cachette là-dessus. J'ai arrêté, j'ai malheureusement rechuté. Et disons que je fume avec une personnalité politique importante, que j'ai déjà nommée précédemment, mais que je ne vais pas répéter son nom, parce que je pense qu'il ne fume plus, puis qu'il n'y a pas le droit de fumer dans les bureaux de Québécois. Mais, il y a quelqu'un qui prend une photo, qui a accès à mon téléphone cellulaire, mon numéro, parce qu'il est très connu à Matane, et qui me texte en me disant « Je suis tellement déçu de vous, vous ne devriez pas fumer, tout ça. » Donc, un jugement sur nous, et ça m'a tellement fait de quoi, parce que je ne sais pas qui est cette personne-là, qui aurait pu venir nous parler, qui aurait pu venir nous dire, ben voici ce que je pense et tout ça. Et là, j'ai dit, ouais, il y a ça aussi, hein. Alors, ça, c'est la seule fois où c'est arrivé que je me suis fait dire, OK. Sinon, qu'une épicerie prenne une heure et demie au lieu d'une demi-heure comme avant, ça, je parle avec tout le monde, je prends des notes. Ça, ça va. Mais qu'on se fasse questionner, pour moi, c'est pas si mal. Si on critique ma conjointe, là, ça va mal. Parce qu'elle, elle n'a pas à payer pour mes choix politiques, mes convictions. Et je sais que ça arrive, elle ne me le dit pas toujours. J'espère que ça ne lui a jamais coûté de contrat. Mais c'est le genre de choses où là, je serais plus mobilisé, mettons. Mais pour moi, les gens sont respectueux. Sauf cette petite anecdote-là, qui n'est pas nécessairement irrespectueuse, mais qui est un peu sournoise. Alors, c'est la seule fois que j'ai vécu une expérience un peu genre, vous êtes une mauvaise personne parce que vous avez eu ce comportement.
C'est un peu mesquin.
Bien, il y a un ancien ministre qui a déjà fait la même chose. J'étais dans un restaurant à Outremont et j'étais en discussion justement avec M. Péladeau, dans le fond, là, à taverne à Outremont, et là, il s'empresse de tweeter « Je viens de voir le député Pascal Bérubé avec le magnat de Québécois, la dernière table, dans le fond. » Et là, là, j'ai ses coordonnées, j'ai dit « Bien, Gaétan, pourquoi tu n'es pas venu me saluer? On aurait pris un verre au lieu d'aller tweeter un complot, tu sais. » Parce que lui, était rentré, il nous a vu, il était bon. Alors, ça, c'est déjà arrivé. Sinon, c'est des anecdotes qui sont intéressantes à raconter les années après.
Ouais, bon. Mais parlons de l'avenir, Pascal. On y a touché un petit peu. Mais la quarantaine, j'aime espérer que c'est pour nous la moitié de notre vie. Supposons qu'on a une espérance de vie qui va pousser la quatre-vingtaine, si on s'est rendu là où on en est aujourd'hui. Comment envisages-tu l'avenir, mais le long temps? Pas l'avenir dans 5 ans ou 10 ans. Comment vois-tu le futur, même, pour toi?
C'est dur. C'est dur parce que j'ai jamais eu de plan de carrière. Ça peut paraître un peu galvaudé, on entend souvent ça, mais j'en ai jamais eu. Je renouvelle mon mandat à chaque fois selon les paramètres que j'ai évoqués. Est-ce que j'ai envie de continuer? Est-ce que les gens ont envie que je continue? Donc, la double question se pose. Je ne le sais pas. Des fois, pour faire parler mes proches, je raconte que François Gendron a été élu pour la première fois en 1976 à l'âge de 32 ans. Et il a fait 42 ans, ce qui est le record absolu de tous les temps au Québec. J'ai aussi été élu à l'âge de 32 ans. J'en ai 15 de fait. Alors, est-ce que j'ai envie de battre le record de François Gendron? Je dis ça pour faire jaser mes amis. C'est pas au gré des saisons, c'est au gré des mandats. Alors, chaque fois que j'allonge de 4 ans, donc, je ne fais pas d'autre chose, je n'ai pas d'autre choix à faire. Mais c'est comme ça que se passe ma vie. Alors, la politique, je peux garantir que si je suis élu, encore 4 ans, mais au-delà de ça, je ne pourrais pas le dire. Quant à comment je vois l'avenir pour moi comme personne, bien évidemment, je sais très bien que la politique m'a fait vieillir prématurément. La dernière fois qu'on s'est vu, je n'avais pas les cheveux aussi blancs que ça. Ça, c'est la politique. On se nourrit mal, on ne dort pas beaucoup, on fait beaucoup de routes. Moi, je sais que physiquement, il y a eu un impact. Il a fallu que je ralentisse à certains moments, surtout l'an dernier. J'ai eu quelques avertissements sérieux. Et aussi, ben, j'ai observé, moi, la fin de vie de mes parents, surtout mon père. Donc, il y a une part de génétique sur certains enjeux, notamment que ce soit l'Alzheimer, que ce soit la démence frontale, des maladies cognitives. Puis en plus, comme parlementaire, je suis plongé dans le débat sur la fin de vie dans la dignité. Alors, la seule fois que j'ai abordé cette question-là publiquement avant aujourd'hui, c'est en faisant une réflexion dans un point de presse à l'Assemblée nationale en me disant, bien, écoutez, c'est peut-être... Parce que là, l'idée à Québec, c'est d'extensionner pour les maladies dégénératives cognitives, comme l'Alzheimer, permettre de mourir lorsqu'il n'y a plus d'espoir. Et je me suis dit, je serais peut-être le premier à vouloir cette fin-là parce qu'il y a des facteurs génétiques, parce que mes frères sont aussi à risque, parce que je ne sais pas quand ça peut être déclenché, parce que j'ai des mauvaises habitudes de vie, parce que je suis un fumeur. Je me suis mis à accumuler tous ces questionnements-là. Alors ça, ce bout-là me questionne. Il faudrait que je fasse de l'exercice, il faudrait que je fasse attention, que je dorme mieux, que j'ai moins de stress. C'est un travail stressant, la politique, être député. Alors, c'est sûr qu'on vieillit prématurément. Et de ce côté-là, ben, chaque année qui passe, on ne rajeunit pas. Il s'ajoute du poids supplémentaire. Mais j'ai toujours l'énergie pour me lever à 4 heures du matin, faire des journées jusqu'à très tard, faire beaucoup plus d'activités que n'importe quel député et en ayant un rythme, comme c'est un rythme électoral, mais depuis 15 ans, pas seulement en campagne électorale, chaque jour. Alors, jusqu'à maintenant, ça va bien.
Est-ce que ce serait possible? Et là, je peux pas m'empêcher de réfléchir à ça comme quelqu'un qui travaille... avec beaucoup de clients à améliorer leur mode de vie sur le point de vue de la santé. Mais est-ce que tu crois que ce serait compatible pour toi de prendre des décisions, de changer ton mode de vie, d'adopter des nouvelles routines qui seraient davantage compatibles avec la santé à long terme, disons? Est-ce que tu penses que c'est compatible avec ta vie professionnelle d'aujourd'hui ou penses-tu que c'est impossible?
Ça peut l'être. D'abord, je suis fumeur, je peux travailler à arrêter ça. J'ai une conjointe qui est végétarienne, alors tout ça pourrait disparaître, la viande et bien d'autres choses. Il y a un gymnase à l'Assemblée nationale qui est vraiment fantastique, que je ne fréquente pas assez, même si je suis pas tellement loin. Oui, je pourrais faire davantage attention, mais je suis dans l'action, puis je me questionne pas beaucoup pour moi, beaucoup plus sur... Les cas des gens qui m'interpellent, puis là, qui ont besoin d'une réponse, puis là, ça me stresse, je la trouve pas, puis je vais... Le samedi, je rentre au bureau à peu près toutes les semaines et le dimanche pour faire des appels, des retours. Donc, je me suis beaucoup oublié personnellement. Je prends jamais de vacances, ça, depuis 15 ans. Et les fois que j'y vais, là, ça serait drôle si Annie Soleil était dans le balado, parce qu'elle dirait... Oui, il est venu avec moi à Cuba, il est resté 2 jours. Je trouvais que c'était long au lieu d'une semaine. Puis moi, je dis toujours, Annie Soleil cherche le soleil, moi, je cherche le Wi-Fi. C'est ça qu'on cherche là, dans le sud. C'est des choses très distinctes. Puis là, je feignais de devoir retourner à la chambre. C'était pour aller voir les nouvelles. Et puis bon, je le fais parce que ça lui fait plaisir puis parce que je l'aime. Mais j'ai des vacances, moi, je prends pas ça. Moi, je suis bien quand je suis à mon bureau. Je m'occupe de mes affaires. Puis je rencontre le monde. Moi, ça me va.
Mais... Personnellement, je ne crois pas nécessairement que les vacances, tu sais, la cassure avec le quotidien, puis là, tout d'un coup, tu fais toute ta relaxation pour l'année en 2 semaines. J'ai l'impression que c'est peut-être plus une question de mode de vie ou de prendre un peu de temps, peut-être, tous les jours, je ne sais pas. J'aimerais espérer que... Mais... Je pense que c'est facile de se percevoir comme... Non, tout à fait. Mais il y a quelque chose dans ton rôle qui est irremplaçable et essentiel, mais il faut que tu sois là.
Il faut que le corps suive.
Exactement.
Ma mère me disait qu'il faut ménager sa monture, mais elle disait aussi que la politique, c'était, et je cite, « du tout-monde ». très inquiète pour moi, pour ce qui allait arriver, ce que les gens allaient dire, quelle allait être ma santé, ma vie. Elle m'a mis en garde plusieurs fois. Et à la fin, ce qui me réjouit, décédé en 2015, à la fin, elle a trouvé que, il faisait quelques années que j'étais député, que ça se passait bien puis que je me défendais bien. Donc là, elle était en confiance pour la suite. Et ça m'a rassuré. Mais au début, c'était les craintes de tout l'entourage. Là. Qu'est-ce que ça va donner? Va-tu se faire attaquer? Bon, finalement, ça s'est toujours bien passé.
J'aime croire que si ta mère nous écoute, elle est comme moi rassurée de voir que, bien que le rythme semble absolument débile mental de ton existence, je trouve que tu le portes bien. Tu le portes bien.
Je veux dire, il n'y a rien de plus exaltant que ça, dans le sens que localement, je suis capable d'agir concrètement pour ma communauté. Je ne pourrais pas habiter ici si je n'étais pas le député. Je ne veux pas que ça a l'air prétentieux, mais je n'accepterais pas que quelqu'un d'autre que moi soit député dans le lieu où j'habite. Un jour, ça va arriver, évidemment, mais c'est à ce point-là. Alors, c'est pour ça que je raconte que si j'avais perdu la deuxième fois, c'est sûr que je quittais ma table. Et je serais revenu seulement pour voir mes parents. Mais c'était clair, je quittais, puis j'étais presque convaincu que ça allait arriver. Jusqu'à... Non, non, tu gagnes finalement. OK, je peux rester. Tu peux y aller au Parlement. Oui, oui, tu peux y aller pendant... Là, c'était un mandat plus court, minoritaire, mais oui, oui, c'est toi, là, c'est à ton tour.
Alors, quelle chance!
Je serais allé une journée siéger, puis ça aurait été assez. Puis il n'y aurait même pas eu besoin de me payer. Mais là, je l'ai fait depuis 15 ans maintenant. Alors, c'est un plaisir... C'est un plaisir fantastique, puis je teste des choses des fois. Par exemple, le métier de mon père, c'est enseignant secondaire. Il y avait une pénurie d'enseignants, ils ne trouvent personne pour remplacer. Alors, pendant ma semaine de relâche parlementaire, je me suis inscrit, mon diplôme, mon brevet, puis je vais aller donner un coup de main. Mais vous n'êtes pas sérieux, M. Berrué? Oui, je suis sérieux. Alors, je suis allé là, comme tout le monde, et là, j'attendais l'appel dans la salle des professeurs. Ils m'ont donné la clé, ils m'ont donné la liste des étudiants, ils m'ont donné les exercices à faire en cas de remplacement. Et je n'étais pas le député, j'étais le remplaçant. Puis j'ai fait toutes les classes qu'ils m'ont données, en mathématiques, en physique, en français, tout ça. J'ai fait mon travail, j'ai ramené les clés, j'ai ramené la liste, j'ai ramené les exercices, j'ai appelé le professeur. Et puis, ils ont voulu me payer. Bien, j'ai dit, faites-le, mais je vais renvoyer l'argent pour acheter des livres à la bibliothèque. C'est dans mon école secondaire. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé ça. Et là, il y a eu des spéculations. Est-ce qu'il pourrait être heureux à faire ça? Pas autant que député. J'ai beaucoup de respect pour les enseignants. C'était mon destin d'une certaine façon. C'est la formation que j'ai faite à l'université. Mais j'aime cette liberté-là de pouvoir innover puis faire des choses parfois un peu improbables qui surprennent, mais qui sont utiles. Et Dieu sait que j'en fais beaucoup dans cette circonscription-là. C'est un beau laboratoire social aussi.
Pascal, je vais te poser peut-être deux dernières questions. La première, un regard un peu rétrospectif sur le passé. De quoi es-tu le plus fier?
Des convictions inébranlables. Michel David, le célèbre chroniqueur politique du Devoir, fait un bulletin de l'opposition et du gouvernement à la fin de chaque session. Il donne des notes. Et là, j'y vais de mémoire parce que c'est sorti il y a quelques jours. Il me donne la note A. Il dit quelque chose comme les ténors du parti ont décidé de quitter. Il a quand même choisi de rester. Il aurait pu être ministre dans le gouvernement Legault, mais il choisit de respecter ses convictions. Il y a là-dedans une certaine noblesse. Et c'est son paragraphe avec la lettre A qui coiffe le tout. Ça fait plaisir. Parce qu'il est évident, parce que je m'en fais parler tout le temps, on a parlé de mes liens avec le premier ministre, des liens d'affection, des liens d'amitié, de respect. Alors, les gens disent, oui, mais pourquoi tu ne vas pas avec lui? Ça? Parce que tout ça est vrai, ces liens-là, mais parce que j'ai toujours les mêmes convictions et je n'ai pas renoncé à mes rêves de jeunesse pour le Québec. Et ça, je trouve que oui, un côté romantique à ça, mais je ne déteste pas être le négligé dans l'adversité. Et c'est là que ça devient plus intéressant. Un peu comme dans les films western de cowboys où ils sont quelques-uns dans un bâtiment, puis la cavalerie arrive, puis là, ils tirent sans arrêt, puis ils réussissent à se tirer du pétrin. Alors, moi, je ne déteste pas être celui qui est dans l'équipe qui va surprendre. Au lieu d'être dans l'armée qui est forte, moi, j'aime mieux de l'autre côté. Ça ne me dérange pas. Et j'ai beaucoup plus d'ambition pour les jeunes chez nous que pour moi-même. La preuve, j'en ai fait la démonstration à plusieurs reprises. Je ne voulais pas être chef. Je ne veux pas me joindre à l'équipe gagnante en pilant sur mes convictions et en disant « les gens sont rendus ailleurs », ce que certains ont fait récemment. Ce serait tellement facile pour moi de le faire, même plus facile pour moi que pour bien des caquistes. D'ailleurs, il n'y a aucun caquiste actuel qui a travaillé plus que moi à ce que François Legault devienne premier ministre du Québec, du Parti québécois. Alors, je me retrouve dans une situation où celui que je voulais qu'il soit premier ministre l'est maintenant, mais je ne voulais pas qu'il soit fédéraliste, je voulais qu'il soit indépendantiste. Alors, ça me met dans une situation particulière, mais je trouve que d'assumer ses convictions, lorsque des choix plus faciles, ça a effectivement une certaine noblesse. Je ne le fais pas pour me le faire dire, mais ça me réconforte. J'aime ça.
Et regardant plutôt vers l'avant, vers l'avenir, les 40, 50 années que j'espère qu'il te reste, quel héritage voudrais-tu léguer? Qu'est-ce que tu voudrais faire dans l'avenir qui te rendrait encore aussi fier ou plus fier que ce que tu viens de me décrire?
Je voudrais que les gens se souviennent de moi comme... quand ils ont la définition d'un député dédié à sa communauté, qui pense à moi, surtout les jeunes chez nous. Pas besoin d'une statue, j'ai pas besoin qu'un bâtiment porte mon nom, mais je veux qu'ils disent, lui, il n'a jamais cédé sur ses convictions, il est honnête, il n'a jamais dévié. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas douté, mais il n'a jamais dévié. Respect pour ça. Ça, c'est les plus beaux compliments qu'on peut me faire. Alors, j'aimerais ça que... être associé à ce qu'est le rôle d'un député, d'avoir contribué à valoriser le rôle d'un député. Puis le rôle d'un député, c'est beaucoup de choses. C'est pas seulement de se faire élire en disant « je vais être du côté du pouvoir ». Non. C'est qu'est-ce que tu fais de ta fonction, ta charge importante. Alors, j'aimerais que ça soit ça, et j'aimerais ça, de mon vivant, pouvoir témoigner. C'est toujours mieux d'avoir les hommages de son vivant, parce que j'en ai trop fait, mais pour des gens décédés. Alors, j'aimerais bien que les gens se souviennent de ça. Mais je ne suis pas prêt à quitter pour l'instant. Alors, je devrais différer l'écoute de ces commentaires-là s'ils arrivent un jour. Mais le rôle de député, pour moi, là, si j'avais un titre de biographie, puis toujours un peu pompeux, là, les titres, là, souvent les auteurs veulent se magnifier à travers ça, je ne dirais pas profession de député, je pense que ce serait juste député. Et là, il y aurait une curiosité de voir comment je perçois mon rôle. Et un jour, j'ai envie d'écrire un livre qui s'appellerait « La politique démystifie », où j'expliquerai certains mythes et certains trucs qu'on voit pour que plus jamais personne tombe dans le panneau. Toutes sortes de choses que j'observe depuis des années. Et d'ailleurs, j'ai offert à un auteur très connu au Québec de coécrire avec lui une série sur la politique un jour qui s'appellerait Porte 6. Porte 6 étant la porte d'entrée des ministres et du personnel politique. Tu vois un peu c'est où, là? C'est là qu'on rentrait, je pense, en partie avec les jeunes du Parlement étudiants. Et là, ça serait... pas nécessairement le House of Cards québécois, mais une série réaliste sur ce qu'est la politique au Québec et le pouvoir. C'est pas aussi glamour que les gens croient. C'est pas aussi compliqué. Il n'y a pas toujours 15 conseillers. Il n'y a pas tant de préparation que ça. On est souvent un peu comme un médecin dans une urgence qui fait du triage. C'est ça, la politique, souvent. Et il y a beaucoup de gens qui ont des ambitions et très peu de postes disponibles pour toutes ces ambitions. Il y a de ça aussi. Alors, c'est pour ça que j'aime être heureux comme député de Matane-Matapédia. Il y a un seul poste, c'est moi qui l'ai. Alors, ça me suffit.
C'est pas une affirmation à saveur électorale parce que je ne peux pas voter dans cette élection, mais je peux t'assurer, Pascal, que si j'étais dans l'élection québécoise, si j'étais dans Matane, certainement je voterais pour toi. Je ne peux pas imaginer quiconque habiter le poste de façon aussi entière que tu le fais.
Alors, je le fais avec passion. Puis par exemple, là, cet été, là, j'étais guide touristique. Là. Toute personne qui vient dans mon comté, je guide, je donne de l'info. Parfois, j'accompagne les gens. C'est une passion qui est renouvelée constamment. J'aime vraiment ça. Et tant que les gens vont vouloir de moi, je vais continuer. Au moment où les gens écoutent cette conversation, on ne le sait pas, on est peut-être en campagne électorale, on sera fixé dans quelques semaines, mais j'ai vraiment envie de continuer. Puis chaque fois que je rencontre quelqu'un, je leur dis, bien, j'ai besoin de vous, vous pouvez faire la différence. N'oubliez pas que j'ai déjà perdu par 33 voix. On reste nerveux après ça. Alors, je suis toujours habité du doute que j'avais à ma première élection, de la déception, de la satisfaction d'avoir gagné avec 213 voix. C'est celui-là que je suis dans une campagne électorale, pas celui qui a gagné avec 70 % des voix. Alors, ça me reste « groundé », comme on dit, sur l'essentiel. Puis une anecdote, quand on quitte la session parlementaire, on nous offre d'entreposer nos effets à l'Assemblée nationale. Autrement dit, on pense que tu vas revenir, tu ramasseras ton stock à l'automne. Moi, ce n'est pas ce que j'ai fait. J'ai remis ma clé, j'ai pris les 25 boîtes qu'il y avait là, je les ai fait livrer à Matane, il ne reste plus rien à l'Assemblée. Le message est le suivant, je ne prends rien pour acquis, je ramène ça chez nous. Si je retourne à l'Assemblée nationale, je ramènerai les 25 boîtes. Je me mets dans cet état d'esprit-là pour faire la campagne électorale. Et les gens ne doivent rien. Hein. Faut qu'ils se reconnaissent un peu dans moi. Alors, c'est comme ça que je vais aborder cette campagne, qui sera peut-être plus difficile qu'ils ont, mais que je vais aborder avec le même enthousiasme. À suivre.
Merci, Pascal, pour ta générosité dans cette entrevue. J'ai trouvé ça magnifique de te retrouver. La même fougue pour la politique dont je me souvenais. Je pense que ce serait facile, après 15 ans, d'être fatigué. Et surtout quand on fait des journées de fou comme tu le fais, puis qu'on ne prend pas de vacances. Ouais, sauf quand on est acculé au pied du mur.
C'est effectivement, oui. Je réalise en parlant que c'est peut-être pas très sain toujours ce mode de vie-là.
Oui, t'as le temps pour travailler là-dessus. Je pense que ça peut s'améliorer un peu.
Ouais. Alors, ce sera la première à écouter cet entretien-là, puis j'ai l'impression qu'on aura une discussion après sur ce que j'ai dit.
Je lui envoie une copie. Merci beaucoup, Pascal.
Merci, Brigitte. Ça fait plaisir de te retrouver, mais dans la province de John Horgan, le premier ministre.
N'est-ce pas? Oui. Alors, tu viens quand tu veux. Il y a toujours de la place chez nous.
Et peut-être que moi, je pourrais t'interviewer sur comment se passe ta vie à Vancouver. Parce que pour les gens qui ne savent pas, c'est tout un parcours, celui de Brigitte, depuis des années.
Oui, ce sera pour le dernier épisode, peut-être.
Ça prendra quelqu'un qui t'interviewe pour le dernier.
On travaille là-dessus. Merci, Pascal.
Merci, Brigitte.
Merci d'avoir passé cette heure avec nous. Pour réagir à ce deuxième épisode de La Quarantaine, visitez-moi sur Instagram, laquarantaine.balado. Pour me suggérer le nom d'une personne à interviewer, visitez le site laquarantainebalado.com. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de revenir la semaine prochaine pour une autre conversation.